I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman.
Le salon impromptu.
Et bonjour à toutes et à tous, prenez place dans le salon impromptu et laissez-vous porter ou même chavirer, pourquoi pas, par la conversation. Une conversation aujourd'hui, on l'espère, ponctuée d'humour, voire de bons mots, c'est le moment là, ouais, c'est pas gagné. Puisque autour de cette table sont réunis quatre professionnel, il chuchote, c'est très radiophonique. Gilles, tu es un mauvais élève. Dès le début, ça commence.
Parce que ça m'a fait rire, donc...
Ah là là. Et oui, alors on est là pour ça, aujourd'hui, pour parler de rire, d'humour, de ce qui nous fait rire, puisque ce qui m'a marqué, c'est que depuis quelques temps ici, en Sud-Ardèche, il y a des lieux, des espaces, des moments qui sont dédiés justement à l'humour, à la comédie, et j'ai voulu un petit peu en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Et donc je vous ai réunis, vous, alors vous allez vous présenter pour justement parler de tout ça. On commence à ma droite par Caroline.
Bonjour Sophie.
Caroline Drault.
Caroline Drault, là. Donc moi je suis de La Blachère et avec mon conjoint on vient d'ouvrir une salle de spectacle qui s'appelle La Blascène.
Et qui est fortement dédiée à la comédie, à l'humour, oui. Et aussi au spectacle pour enfants, mais ça nous intéresse moins.
Mais on rigole aussi dans les spectacles enfants, mais oui.
Ah, ouais. Eh ben oui, mais tu nous en parleras. Aussi. Mais ouais, un humour, j'imagine, spécifique. On va voir. Gilles, le mauvais élève.
Voilà, il en faut un. Gilles Droulez, compagnie, donc les affamés. Nous, donc, on est implanté en Ardèche du Sud depuis une quinzaine d'années. Et on a ce festival d'été, donc... qui est généralement le prochain en tout cas sera du 8 au 15 août 2026, qui est à Saint-Alban-Auriol au musée d'Audet. Voilà, et on se produit, d'ailleurs la semaine dernière on a joué le mariage de Figaro de Beaumarchais, et voilà, et je suis accompagné de mon acolyte
pas anonyme du coup, qui s'appelle Laurent Andary. Donc j'ai le plaisir de travailler avec la compagnie Les Affamés depuis pas mal d'années aussi. Et bah, que dire, en comédien, et j'ai même eu l'opportunité, grâce à la compagnie, d'écrire une ou deux pièces, enfin de commettre, comme on dit,
oui,
avec
faire.
Plus ou moins de succès d'ailleurs, voilà.
Et ce qui m'intéressait, bah, tu parlais, non, je ne sais pas si tu l'as dit ou alors si je l'ai entendu sans que tu l'aies prononcé, le mariage de Figaro, non?
Oui, bien sûr, je l'ai dit, parce qu'on l'a joué la semaine dernière.
Bien sûr, donc ça c'est... C'est intéressant, voilà. Vous commettez des nouveautés, des créations, mais aussi vous revisitez en fait des classiques de Molière, des classiques de Beaumarchais.
Exactement.
En l'occurrence. Et c'est ce qui m'a intéressé.
D'accord. Uh-huh.
Et le dernier compagnon, c'est Antoine.
Oui, bonjour à tous. Antoine Cognon, je représente Stand-Up 07. Stand-Up 07 qui existe maintenant depuis 3 ans. On organise des soirées stand-up un peu partout. Dans le sud d'Ardèche notamment, et c'est porté par une association, et on lance notamment aussi un festival en janvier l'année prochaine, donc un festival de stand-up et d'humour, pendant 2 jours.
Boc de rire.
Exactement, le festival Boc de rire.
Peut-être que vous viendrez en parler ici à Fréquence 7.
Avec plaisir.
Alors si on est là, déjà il y a une spécificité. Là on parle de rire, mais on parle de rire en salle. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous de rire en salle plutôt que de rire seul?
Alors, on est ensemble, justement.
Ah, allez. Et tout le monde prend la parole, hein. Allez-y. Oui.
Bah, le rire amène le rire. Ouais. Une personne qui rit dans une salle, en général, ça amène plein de personnes qui rient.
Ouais, c'est pour ça que nous, on paye toujours quelqu'un pour faire la clap.
Je m'en doutais.
Non, c'est vrai que moi, je peux faire le lien par rapport à des gens qui... des fois qui me parlent d'humoristes, quand ils les voient sur les réseaux sociaux, ils me disent « Ah, celui-là, il n'est pas très drôle ou quoi ». Et en fait, quand ils les voient en vrai, l'énergie du public amène vraiment un rire collectif. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est vraiment un rire collectif qu'on vient chercher quand on organise ces spectacles-là.
Ah bon ?
je pensais pas avoir une ovation sur ça.
Quel succès.
Moi, je vais me lancer alors.
Et ouais, parce que...
Vous allez vous l'avez payé cher là.
Et...
Alors, j'entendais quelqu'un qui disait oh, oh, oh. Et ça marche très bien. Il faut un rire un peu contagieux, un peu ridicule, ouais, mais parfois exactement. Dans la salle, ça c'est génial, ça emporte tout le monde.
Ben ouais, parce que quand je t'ai demandé ce qui te faisait rire, si t'avais un, je sais pas, moi j'imaginais plutôt un sketch ou un truc comme ça, et tu m'as dit le rire du public.
Ouais,
donc,
tout à fait.
Donc c'est vraiment ça. Et il y a une étude qui a été menée, une étude très, très sérieuse de l'University College de Londres, qui a en effet enquêté et prouvé que les rires préenregistrés nous rendaient plus sensibles à une blague. Alors, enfin, rire préenregistré, là, c'était pour lire, enfin, voilà, ce qu'on a subi, nous, étant jeunes, les sitcoms où t'avais des rires voilà, fléchés.
Ben, je crois qu'il y a des anecdotes hein, qui existent dans des spectacles d'artistes. Il y en a qui diffusent des rires pendant, là, au moment où il faut rire, pour justement agrémenter de rire la salle pour que les gens soient enclins à rire aussi. Ça existe aussi dans certains spectacles. Il y en a qui diffusent des rires de public pendant les rires et les applaudissements. Ouais, bien sûr, j'ai découvert ça, c'est un peu fou. Ouais.
Ah bah on sait ce qu'il reste à faire.
C'est un peu de la triche et c'est aussi pour pousser un peu plus les rires du public.
Mais pourquoi ?
Encourager les gens à rire, à se détendre et à rire naturellement.
C'est parce que comme c'est pas drôle sur scène, eh ben, il faut bien que les gens rient.
Non, c'est pas ça, c'est que souvent les gens, ils sont, des fois, il y en a qui ont un peu honte de leur rire et ils se lâchent pas en fait. Ah, et vrai. Du coup, c'est le fait de mettre des rires supplémentaires fait que les gens ils se détendent et ils rient plus fort en fait, tout simplement.
Il existe des ateliers de rire
où
les gens
se
regroupent pour rire.
Ouais. Mmh.
Ah, le yoga du rire, par exemple.
Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en effet, ça existe.
Ouais.
Tu payes pour aller rire.
Ah, tu payes pour aller rire.
Là, je pense, ouais.
Il y en a qui payent pour faire des câlins, il paraît aussi.
Ouais.
Et ouais. Mais donc, c'est vital. Enfin, je veux dire, c'est vital. On en a besoin.
On en a besoin.
Ouais, le rire collectif, on peut le voir même quand on fait, je sais pas, quelque chose entre amis ou quelque chose comme ça. On rit plus quand on rit ensemble plutôt que quand on est tout seul en face de son écran, par exemple. C'est vraiment contagieux, en fait. C'est une énergie. Hein. Pour moi, le rire, c'est une énergie. Hein. C'est plus qu'un rire à une blague, c'est vraiment une énergie. Et justement, quand moi, j'organise les soirées stand-up, je fais toujours en attention à la mise en scène, à la proximité du public, justement pour recréer cette énergie. Parce que je sais que s'il y a cette disposition qui est mise en place, l'énergie sera bien plus au rendez-vous et du coup le spectacle fonctionnera mieux parce que les artistes seront mieux en condition, du coup ils seront meilleurs, le public sera plus réceptif et du coup ça crée une énergie qui fait que le rire est plus fort.
Mais toi t'es bien en Ardèche quoi, tu parles d'énergie. Ouais. Même dans les... Ouais. Ça t'évoque quelque chose Gilles ?
Non.
Désolé.
Merci. Moi, j'irais plus loin pour dire aussi que c'est un signe de bonne santé de rire. Et parce que d'une part, à la sortie des salles, on nous le dit quand même très très souvent, à merci. On est souvent remercié parce que les gens ont ri et que ça fait un bien fou de rire. Et que bah, selon la vie des gens, que c'est pas toujours facile, les infos sont moroses, voilà. Et que du coup, rire au milieu de tout ça, vraiment, ça fait un bien fou aux gens. Et le nombre de fois où j'ai entendu « faudrait que ce soit remboursé par la Sécu », c'est assez récurrent. Les gens le disent souvent. Et je pense que quand on rit, on va bien, en fait. Ouais. On est, même que ce soit entre amis ou dans une salle ou n'importe quoi, en général, on se sent bien, du coup, après.
Mmh. C'est un peu comme une soupape aussi, quelque chose.
Ah ouais, tout à fait.
Mais justement, j'avais une interrogation, mais vous pouvez répondre par un blanc, hein. Gilles, il n'y a pas de problème.
Non, mais rien. Bah,
non, ta question n'est pas du tout intéressante. On passe à autre chose. Mais justement, sur la dimension politique, parce que on dit souvent que le rire est subversif. C'est, alors, je vous poserai la question, mais je me dis, c'est subversif, oui, mais c'est un peu comme le carnaval au Moyen-Âge, voilà, qui plonge ses racines bien avant, mais il y a un moment dédié à ça. Pour qu'ensuite tout puisse rentrer dans l'ordre. Et je me dis, est-ce que c'est pas juste un moment où, voilà, on est bien en salle, et puis ensuite, voilà, ça y est, on a ri de tel puissant ou quoi, et ensuite, bah voilà.
Tout rentre dans l'ordre. Dans l'ordre et rentre chez soi. C'est ça. Et rien ne change. C'est vrai, rien ne change en fait. Hein. Mais on passe un bon moment, c'est de la distraction parfois. Et mais le rire subversif, c'est un peu autrement. C'est ce qui est intéressant dans le rire, dans ce qu'on veut provoquer, c'est on rit bien sûr, on rit, mais ça nous fait quand même réfléchir. Et cette réflexion, on l'emmène avec soi et on essaie d'avoir un autre regard sur pendant un instant, parce que bien sûr, ça dure pas longtemps, sinon la révolution serait déjà là à nos portes. Mais quoi qu'elle est pas loin, mais la porte est dure à ouvrir, hein, donc ça coince. Cette réflexion devrait nous aider à ouvrir ces portes pour rire vraiment de ce qui nous entoure, du spectacle qui nous est offert tous les jours par ceux qui nous gouvernent, par exemple.
On a reproché au Guignol de l'info, il me semble, par exemple, d'avoir rendu sympathique. Les hommes politiques, certains comme Jacques Chirac, par exemple, qui a été...
Manger des pommes.
Voilà, qui a été rendu sympathique par ses imitateurs, par sa marionnette. Et c'est vrai que... Et pourtant, on voit bien qu'il y a des présidents, un certain président récent, là, qui a interdit, enfin, qui a mis des bâtons dans les roues pour la poursuite des guignols. Enfin, on ne sait jamais exactement, en fait, si on le rire, parfois,
lequel,
le rire
subversif. Lequel, celui qui dort en prison, lequel
je crois que c'est celui qui dort en prison, mais oui. Le suivant aussi, il me semble. Non, enfin, bref. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas toujours si le rire, il est subversif ou il est consensuel et qui va... Est-ce que ça encourage le statu quo ou est-ce que ça encourage le changement? C'est difficile à savoir.
Moi, ce que je trouve surtout, c'est que le rire, il fédère, en fait. Et du coup, moi, quand je vois, je suis dans une même salle, un public qui est très différent de... politiquement, d'âge différent, de classe sociale différente, mais qui rigolent de la même chose au même endroit, bah là, en fait, il y a, au-delà de la dimension politique, il y a une dimension sociale qui fait que c'est des moments qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui arrivent à fédérer autant que ces moments-là qu'on crée avec ces spectacles-là. Je trouve que c'est très fort, en fait. C'est vraiment très fort.
Bah, c'est sûr que quand on rit avec quelqu'un, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était dans un des procès des responsables nazis, à un moment donné, il y a eu un rire et ils ont ri ensemble. Mmh. Ça, c'est terrible. Rire avec un salaud, c'est affreux. Mmh. Mais on partage un truc, une complicité, quoi. C'est... Enfin bon, je ne sais pas, j'ai peut-être un petit côté tragique et dramatique. Ne me laissez pas la parole, allez-y, on est là pour rire. Bon.
Ah bah la tragédie, ça peut faire rire aussi, justement. Ah bah ouais. On en rit beaucoup d'ailleurs, je pense.
Et ouais, c'est ça. Bah voilà.
Ou le malheur des autres.
Qui n'a pas ri lors d'un enterrement, par exemple?
Moi.
Ah bon, bah, tant mieux, bravo.
Ouais. Mais parce que c'est vrai que le rire... Non, mais on parle pas du tien.
Ah bon, d'accord, excusez-moi. Alors, parce que le mien, il était beau. C'est tragique, beau.
peut-être risible, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que le rire, c'est aussi un soulagement, une façon de se soulager, parfois, de relâcher la pression.
Ouais. C'est vrai. Merci. Ça, c'est pour meubler le blanc.
Non, mais je trouve que ça dépasse justement plein de... Ça dépasse plein de choses, de personnalités, de problèmes, des choses comme ça. Et justement, en fait, ça casse un peu les barrières parfois. Et ça évite qu'on se pose la question, justement, qui est la personne d'un côté de moi. On rit, on pense pas à elle. On pense juste au spectacle et on rit du spectacle. Après, le spectacle, on reprend chacun nos vies si on veut, ou alors peut-être qu'après le spectacle, justement, il y a des choses qui se créent grâce au rire. Mais pendant le spectacle, on est vraiment tous au même endroit, au même moment, et on rit de la même chose. Il n'y a pas de transversalité avec des opinions ou quoi que ce soit qui peuvent arriver.
Et justement, tu parlais des publics, tu disais, donc dans les stand-up, il y a des publics très différents. Tu constates ça? Est-ce qu'il y a vraiment une multiplicité, une diversité des gens qui viennent au stand-up de tous âges, de toutes...
Ouais, bien sûr. Alors après, nous, on fait ça, on est en Sud-Ardèche. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas très implanté en Sud-Ardèche. Je pense que le public est peut-être un peu différent dans les grandes villes. Mais c'est quelque chose qui a peu en Sud-Ardèche, donc les gens, quand il y a quelque chose à côté de chez eux, ils viennent voir. Et c'est vrai que ça fédère un peu tout le monde. Alors, le stand-up, nous, on fait toujours très attention. On essaye toujours de dire que c'est déconseillé en dessous d'un certain âge parce que les artistes utilisent un langage familier, soutenu, peut-être parfois vulgaire. Mais on a des parents qui viennent avec leurs enfants parce qu'eux, ils sont déjà sensibles à ça. Et moi, je me souviendrai toujours, quand on a fêté les 2 ans sur une place de village, d'avoir des enfants, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Je me suis même approché des arrière-grands-parents pour être sûr qu'ils entendaient. Et ils rigolaient. Et tout le monde rigolait, en fait, au même temps, au même moment. Et ça m'a foutu les frissons, quoi. Vraiment.
Mmh. Et s'ils n'entendaient pas le stand-upper ou la stand-upeuse, ils entendaient les rires.
Exactement.
Donc ils riaient. Ouais. Est-ce que vous, justement, Gilles, est-ce que tu pratiques, Gilles, Laurent et Caroline, est-ce que vous allez voir cette forme-là ? Alors, que tu décrirais comment ? Comment on décrit le stand-up ?
Alors, le stand-up, c'est une forme d'humour où les humoristes, il n'y a pas de mise en scène au-delà du personnage qui parle. Il parle de sa vie, de ses problèmes personnels, des problèmes de la société. Il parle de ce qui l'entoure avec ses yeux à lui et il prend pas de personnage, il prend pas la peau de personnage ou quoi que ce soit. C'est vraiment lui, un micro et sa vision du monde, quoi.
Est-ce que vous, vous avez déjà participé ? Est-ce que vous êtes allé voir déjà du stand-up ? Alors bon, Caroline, j'imagine que oui.
Oui, j'en ai vu, oui. Mais d'ailleurs, on compte en programmer, à partir de janvier, on programme du stand-up, justement. Mais sinon, oui, cette année, justement, j'en ai vu plusieurs, j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs. Et c'est complètement une autre forme de spectacle, de théâtre, de choses comme ça, mais qui est très c'est pas à la mode, c'est pas ça le mot, mais je veux dire qui est très tendance actuellement. Le stand-up fonctionne vraiment très très bien actuellement.
Ouais, il y a une forme aussi d'interaction avec le public dans le stand-up que le public aime bien aussi.
Et parce que la question sous-jacente, c'est est-ce que par exemple ce public peut se retrouver en face d'une comédie de Beaumarchais revisitée ?
On fait pas d'enquête avant, donc on ne sait pas, mais peut-être. Je pense que le public, surtout rural, est ouvert beaucoup à toute forme de théâtre, je pense. Et donc je pense qu'il y a des passerelles qui se font naturellement.
Mais c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que c'est différent, mais ça permet de proposer sur le même territoire justement des formes de spectacle et de très différentes, et il y en a pour tout le monde. Et ouais, à mon avis, ça peut aussi, des mêmes personnes peuvent aller voir plusieurs spectacles très différents.
Donc il y a une spécificité par rapport justement à cet environnement rural. C'est-à-dire qu'en ruralité, on n'a pas le même public.
Non, pas du tout. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que justement, dans la ruralité, on a un public qui a moins de propositions de spectacles que dans les grandes villes. Donc, en fait, quand ils veulent aller voir un spectacle, ils vont voir les spectacles qui se produisent autour de chez eux, que ce soit du théâtre d'impro.
Ils ont pas le choix, quoi. Donc.
Non, mais c'est méchant à dire, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, ils profitent, ils sont déjà plus enclins à aller voir les spectacles et à rire, ça j'ai remarqué aussi, que des personnes qui sont dans les grandes villes qui vont être beaucoup plus exigeantes parce qu'ils ont plein de propositions, justement. Donc ils peuvent, dans les grandes villes, se jouer un peu plus critiques. Alors qu'ici, déjà, rien qu'à la base, peu importe ce que c'est comme spectacle, ils ont envie de venir voir, ils ont envie de venir rigoler. Et du coup, ils sont plus enclins à rire aussi.
Enfin, je crois qu'aussi, des publics qui ne viennent pas pour rigoler, heureusement, qui viennent simplement parce que c'est un spectacle, c'est du spectacle vivant, ce soit une comédie dramatique, un drame. Et je pense qu'il y a aussi ça. Bien sûr, on peut rire dans un drame, on peut, comme tu disais, dans une tragédie, on peut rire aussi, surtout dans une comédie dramatique, dans Beaumarchais. Marché avec le marié de Figaro, on rit, mais les propos, ce qui est sous-jacent, c'est pas on vient pas ici pour rire.
Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord là, c'était parce que c'est le but de l'émission, mais c'est vrai
je m'éloigne toujours de l'émission.
Non, il n'y a pas de souci, mais c'est effectivement, moi je prône effectivement l'accès au spectacle vivant. D'ailleurs, c'est vraiment du spectacle vivant, c'est qu'on encourage les gens à aller voir du spectacle vivant.
Oui, ça c'est important, bien sûr.
Par contre, par rapport à ce que tu disais, Antoine, moi je constate quand même si on est en Ardèche, c'est un milieu rural. Mais il y a énormément de personnes qui viennent de la ville, en fait, oui, à la base. Oui, oui. Il y a beaucoup de...
Des ruraux, oui.
Oui. Et
comme
du
toi.
Coup, non, je viens de la campagne
aussi.
Ah
bah toi aussi,
loupé.
Tu viens de campagne.
Voilà. Moi, je suis une vraie et campagnarde.
Ouais. Une autre campagne, c'est juste ça.
Mais justement, est-ce que c'est pas justement les gens qui viennent de la ville, le public le plus fréquent au spectacle, parce que... Enfin, il n'y a pas que non plus, hein, mais je veux dire, les néo, comment on appelle ça, néo-ruraux, qui viennent vivre avec le calme, le plaisir de la campagne, tout ce que ça apporte, mais qui continuent à avoir envie d'une vie culturelle et qui sont du coup peut-être des gens qui sont enclins à venir voir des spectacles.
Les quelques discussions que j'ai eues dernièrement, par exemple, ça je l'ai ressenti, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde non plus, hein. Et puis c'est tout récent, donc j'ai pas assez de recul aussi pour m'exprimer là-dessus, mais quand même, j'ai eu plusieurs discussions où ça s'est revenu plusieurs fois quand même, déjà sur le tapis.
C'est tout récent, donc tu parles de La Blachère, on est avec Caroline Drault,
oui.
La Blachère à La Blachère, avec Gilles Droulez et Laurent.
Mais tu parles de quel tapis?
Andari.
De quel?
Le quel tapis?
Quel tapis?
Oui, enfin non, rien.
Ça, j'ai oublié ce que j'ai dit, moi. Alors, oui, voilà. Si tu rebondis sur un truc que j'ai dit, je me rappelle
plus. Tu rebondis deux heures plus tard.
Ah non, pas deux heures plus tard, non, 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 c'est pas vrai.
Et vous êtes dans le Salon Impromptu. Voilà, émission de Fréquence 7, avec également Antoine Cognon pour Stand Up 07. Et on parle du rire, de ce qui fait rire. Mais il y a peut-être justement... des publics aussi différents. Enfin bon, là, on court après le DAHU. Enfin, le public, il n'existe pas. Enfin, il est multiforme. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que dans cette forme de stand-up est peut-être plus immédiate pour certains. Et donc, on y va sans tout ce qu'il y a derrière de représentation de ce que c'est qu'un spectacle de théâtre, où ça demande peut-être, pour certains, en tout cas dans les représentations qu'on se fait, c'est peut-être moins immédiat.
Oui, peut-être que dans le stand-up, en fait, vu que les gens parlent, décrivent ce qui les entoure, ça, forcément, le public se sent concerné, en fait. Ils vont parler de choses de la vie quotidienne, donc en fait, ils vont rire des choses de la vie quotidienne, desquelles on est confronté aussi. Donc le public va se sentir concerné. Mais effectivement, je saurais pas dire si c'est plus facile pour le public de venir voir du stand-up que du théâtre d'improvisation, parce que pour le coup, ça marche. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu aussi, ça marche très bien aussi. Donc, je sais pas si la conception que le public se fait en venant voir ce type de spectacle est différente.
Ouais, théâtre d'impro ou théâtre pas d'impro.
Oui.
Qu'est-ce qui...
C'est les auteurs peuvent faire peur parfois. Hein.
Exactement.
Quand on parle de Beaumarchais, on se dit, ah mince, Beaumarchais, 18e siècle, etc., on va rien comprendre, c'est compliqué, etc. Molière, c'est en vers, l'école des femmes, etc. Donc c'est pas pour nous, il y en a qui se freinent à cause d'un nom d'auteur. Ils se disent, c'est pas pour nous. Alors qu'on traite des mêmes problématiques, en fait. On traite aussi du rapport humain. Donc c'est ça qui est important. C'est le rapport humain. Et Molière l'a très bien décrit. C'est pour ça qu'on en joue. On joue tout le temps du Molière aujourd'hui. Le Beaumarchais, c'est aussi, par exemple, sur les abus de pouvoir. Par exemple, le mariage de Figaro, les abus de pouvoir. Mais c'est aussi des histoires de cocufiage, etc. Donc comme dans les vaudevilles. Et c'est ça. Mais par contre, le public... C'est un nom, c'est un auteur classique, et on se dit, ah mince, c'est pas pour nous. Je pense qu'il y a des publics qui se refusent, d'aller voir parce que c'est pas pour nous, c'est peut-être pas drôle, on va pas rigoler, tout ça, on va peut-être devoir réfléchir, tout ça, et des fois ça emmerde parce que les gens, ils ont envie de se distraire, et c'est bien normal avec tout ce qui nous entoure. Mais quand ils passent, quand ils font cette démarche de venir, et ça arrive, et on a des retours comme ça, de venir voir ce type de théâtre, ils disent « Ah ben c'est ça, mais on rit, c'est vivant, c'est drôle, c'est actuel. » On retrouve même dans les écritures ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et on en rit aussi, on en pleure aussi, parce que c'est des comédies dramatiques. Donc il y a tout ça dans une pièce, il y a aussi des rires, il y a aussi des émotions. Le rire, c'est une émotion aussi. Donc c'est important. Et c'est je pense que la différence entre le c'est peut-être pour ça qu'on retrouve pas peut-être le même public dans du stand-up, j'ai l'impression, que dans des pièces plus classiques entre parenthèses, ou même des auteurs contemporains comme notons comme nous on a adapté des romans de Marie-Sabine Roger, des trucs un peu littéraires, donc, et ça des fois ça se dit, ah ben non, c'est pas pour nous. Il y a des gens qui ont, à mon avis, encore ce frein là dire, c'est pas pour ce théâtre-là, n'est pas pour nous, je pense.
Comme si c'était un peu élitiste.
comme s'il y avait un côté élitiste, alors que c'est pas du tout élitiste. Ouais,
non, parce que nous... t'as la mise en scène, t'as tout ça qui vient ajouter des choses très modernes, en fait, dans tout ça aussi.
Voilà.
Pour avoir vu, moi j'ai vu plusieurs de vos spectacles, pas tous, mais pas mal.
Ah bon?
Ouais.
Pas tous.
Non, parce qu'avant, j'étais pas là, donc j'ai pas pu voir les anciens spectacles, Gilles. Je ne te connaissais pas.
Non, mais c'est vrai, Caroline, c'est vrai. Pardon, pardon.
Mais du coup, voilà, c'est abordé aussi d'une manière... mais après, comme tu dis, c'est assez moderne quand même, ça reste...
Oui, on actualise par rapport à aujourd'hui. Donc même dans la mise en scène, la scénographie aussi est actualisée. On tombe pas dans le cliché vieillot, quoi. Donc,
non, mais ouais.
Et on actualise et on essaie justement de... Et ça marche, parce que le public vient quand même... Là, au Masdodé, donc là, on a repris l'école des femmes de Molière. Ben, on a fait, c'était la meilleure jauge depuis la création du festival. Et les gens rient de cette histoire d'Arnolf, qui veut dire qui est le patron des cocus, hein, Arnolf. Et ils rient beaucoup de ça, alors que c'est du vers, c'est tout ça. Mais en même temps, il y a une sorte aussi de drame. Il y a une écoute, il y a une puissance. Et les gens, ils se libèrent aussi dans le rire quand il y a quelque chose de drôle, de décalé. Le décalage aussi dans le théâtre peut faire rire.
Ah mais c'est même ouais, c'est la même surprise, l'incongruité.
Exactement, l'incongruité du propos. Il y a dans le mariage de Figaro, le comte qui se comporte comme avec les abus de pouvoir. Mais heureusement que ça n'existe plus, ça. Les privilèges. Les privilèges, le droit de cuissage, mais ça n'existe plus. Donc, mais ça fait rire. Ça fait rire parce que on dit ça correspond aussi à notre époque. Il y a encore une passerelle avec nous, avec ce qu'on vit, quoi. Et donc, on préfère en rire, parce que les propos, c'est comme un vaudeville. Les bons vaudevilles du Phédo, tout ça, qu'est-ce que c'est un vaudeville? C'est l'histoire de cocufiage. Donc, au fond, c'est dramatique. Se faire tromper par sa femme ou une femme trompée par son mari, il y a quelque chose de dramatique. Mais les gens, ils en rient parce qu'on se projette. Aussi, on se projette dans ces histoires. Parce que ça arrive à tout le monde d'être
non. Le salaud, il désigne.
Non, on est à la radio, donc ça se voit pas. Je voulais en parler à Laurent. Laurent, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, pardon, j'ai pas suivi, en fait. Là, le tunnel était trop long pour moi.
Mais donc, il faut un peu de distance. Enfin, parce que là, par exemple, tu prends des exemples, même de vaudeville ou quoi, d'avoir un petit peu de distance qui aide justement à cette... Enfin, on rit et finalement, on n'est pas complètement touché. Mais quand il y a du stand-up, c'est vraiment à l'os. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui vient à raconter sa propre histoire. Mmh. Est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'il se produit la même chose?
Je pense qu'au final, il doit se produire la même chose, parce que l'émotion est là, que ce soit du rire ou des pleurs ou quoi que ce soit. Je pense que l'émotion est là. Elle est amenée différemment, je pense, c'est tout. Moi, elle est amenée différemment.
Oui, je crois que dans les deux cas, l'idée, c'est qu'en fait, le public se reconnaît dans les personnes. Alors, avec le stand-up, comme tu dis, Antoine, c'est vrai que ça paraît évident, c'est presque dans le cahier des charges, le gars qui est sur scène ou la fille. Et il va, a priori, parler en son nom de ce qui lui arrive dans la vie. Donc forcément, on se dit, je vais sûrement me reconnaître un peu dans ce qui lui arrive. On vit tous un peu des choses similaires. Et en fait, dans le théâtre, peut-être que, justement, c'est ce que disait Gilles, on oublie, les gens qui ne sont pas habitués au théâtre, oublient que même dans les grands classiques, qui ont l'air poussiéreux parce qu'ils sont vieux, que c'est des auteurs connus, qu'on a un peu élevés sur des piédestaux. enfin, il est trop tard pour dire ça, mais... Et ben, malgré ça, en fait, on va se reconnaître dans les gens qui sont sur scène, dans les situations, dans ces choses. Enfin, l'être humain, en fait, ne change pas. En 200 ans, il ne change pas. Il vit les mêmes choses, les mêmes émotions. Et en fait, ces émotions, on va les vivre dans le public grâce aux comédiens.
Et on rit, à votre avis, plutôt contre... Enfin, on rit de soi ou on rit des autres? C'est plutôt parce qu'on reconnaît des travers que nous-mêmes...
Ouais, les deux, je pense.
Les deux, oui, je pense.
Les deux. Les deux, parce que... Alors déjà, j'ai vu que le public a des choix avec beaucoup d'autodérision. Ça, je me suis rendu compte de ça. Et donc, ils aimaient bien qu'on leur tape un peu dessus. Ils rigolaient beaucoup de ça. Et non, ils rigolent aussi d'autres situations qu'ils n'ont pas forcément vécues, mais ils se projettent dans ces situations-là et ils rigolent aussi des autres.
C'est pour ça que nous, on a décidé de monter Le Médecin Malgré Lui de Molière, parce qu'il y a des coups de bâton. Et alors, les bâtons, on les réserve aux Ardéchois.
Et qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Alors, je vous ai demandé de venir avec un petit quelque chose, et bon, bah, je, là non plus, c'est pas grave, je ne désigne pas. Ah, mais il désigne, il fait que ça.
On est à la Gilles. Radio, mais on voit pas, c'est filmé.
Mais bien sûr
c'est,
que
là,
oui.
Là aussi, on est filmé.
Mais bien non. sûr que oui, c'est comme ça.
Il y a des caméras de surveillance.
Évidemment.
Il y a l'audio description, en fait.
Qu'est-ce qui vous fait rire, ou justement, qu'est-ce qui vous fait pas rire? Qu'est-ce qui vous... Alors, qu'est-ce que... Caroline, qu'est-ce qui te fait rire?
Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, le plus
vrai. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Mais écoutez, je prenais l'avion, ça va plus vite.
Ça me fait rire.
Pas que, hein. Alors, Louis de Funès, Bourville, dans Le Corneau, en 65.
Oui, moi, j'étais pas né, hein, mais... mais non, ça se voit pas.
Donc, un peu de distance.
Ouais. Mais non, mais il y a plein de choses, hein, qui me font rire, j'aime beaucoup rire. Mais entre... Oui, ça, enfin, du Louis de Funès, par exemple, ou du Bourville, ça me fait toujours rire. Quand je vois un film que j'ai pas vu depuis longtemps, franchement, mais je trouve que je sais pas comment. Alors déjà visuellement, déjà juste, il y a même pas besoin des fois de paroles. Il y a juste, enfin, Louis de Funès, par exemple, je le regarde, je ris. Par exemple, ça me fait rire toutes ces mimiques, toutes ces choses et tout là. Je trouve ça génial, des personnages comme ça.
Il est décalé en soi.
Ouais. Et puis c'est tellement investi, c'est tellement, enfin, je trouve ça très drôle. Et en plus, après, avec tout, des espèces de gags qui peuvent paraître hyper gros en soi, mais je trouve que ça fonctionne. Même si c'est vieux, même si c'est revu parfois. Mais je trouve, enfin, c'est un humour que je trouvais très drôle, entre autres.
Gilles, Laurent, est-ce que ça vous fait rire, Louis de Funès?
Ah oui, moi oui, je suis preneur, oui. Mais,
si.
Mais en fait, ça fait penser à quelque chose. J'aime beaucoup l'association des deux, d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui marche, je trouve, très bien dans le rire. C'est des choses toutes bêtes, comme associer un comédien, enfin un acteur, un personnage un peu nerveux avec un personnage plus lymphatique. Comme il y avait, je sais pas, Laurel et Hardy, ça marchait un peu comme ça. Je trouve Bourville, Louis de Funès, ça marche comme ça. Parfois les clowns blancs, Auguste, ça marche un peu aussi comme ça. Ça, c'est des choses qui marchent vraiment très bien. Les deux personnages qui ont l'air antagonistes comme ça et qui vont devoir un peu se frotter à cause de leurs différences et que ça crée des étincelles et que ça fait rire, en fait.
C'est vrai.
Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Pas grand-chose. Hein.
Le blanc.
Ouais,
non, mais ce qui me fait rire. Donc.
Désigner tes.
Ouais. Non, c'est faux. Lui, là? C'est complètement faux. Je ne désignerai jamais mon camarade Laurent Andary, qui a toujours des très bons jeux de mots, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait. Là.
Non, la pression.
Hein, c'est la pression.
Oui. La dépression.
Ça ne me fait pas rire, là. C'est parce qu'on est ensemble.
J'allais rajouter justement des jeux de mots. Déjà, ah bah oui. Super bien fait, c'est... Qu'est-ce
super
que c'est
bien,
drôle,
bien fait,
oui.
Elle a dit.
Super
oui,
bien
oui,
fait,
oui.
Là, si en plus on me met la pression...
Merci, Caroline, merci.
Effectivement.
Non, moi je suis assez friande de jeux de mots, tout ça, même dans la vie, hein, dans tous les jours et tout.
Moi c'est plutôt le comique de situation. Situation, c'est-à-dire que qui nous ferait pas rire vraiment dans la vie si ça nous arrivait à nous personnellement, mais comme c'est au vu du public, cette situation-là va faire rire le public. Parce que même si c'est encore une fois une situation dramatique entre deux personnes, ben il y a tellement un décalage que ça fait rire le public parce qu'elle soit elle se projette, soit ça lui fait penser à quelque chose, soit il y a dans le jeu aussi. Le jeu c'est très important, hein, de justement comme on disait avec De Funès et Bourville, ces antagonismes, tout ça sur le plateau. Et ça, ce décalage-là fait rire. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là.
Mmh. Et Je te laisse la parole après.
Ouais, on monopolise beaucoup la parole.
Il y a ce qui est génial aussi, je trouve, dans la comédie ou dans les choses comme ça. Par exemple, je sais que tu voulais inviter un clown aujourd'hui et, qui n'est pas là, mais par exemple, ce qui est génial, c'est quand tu ris alors que la personne fait à peine quelque chose sur scène. Hein, je reviens sur scène. Ou par exemple, ça va être juste du gestuel, des regards, ça va être pas grand-chose. Et il y a des gens qui sont très très forts. Et là, tu peux mourir de rire, juste, il y a aucun mot, il y a pas de phrase, il y a pas de texte, il y a rien.
Avec un sourcil qui se lève.
Voilà, et ça c'est génial, je trouve. Et en fait, pour parler du clown ou du mime ou de choses comme ça, c'est des gens souvent qui ont une formation qui fait que dans le corps, il y a un gros travail sur le corps. Et déjà ça, juste visuellement, en fait, c'est génial, quoi. Et ça peut être très très drôle.
C'est vrai.
Merci Gilles.
Il est infernal. Il n'arrête pas de parler. Quand on lui donne la parole, il ne parle pas. Antoine, qu'est-ce qui te fait rire?
Moi, je suis très bon public de tout. Donc en fait, tout ce que vous avez dit, moi je suis entrepreneur, justement, quand tu viens d'expliquer, Caroline, là je fais le lien avec un Paul Mirabel, qui est tout grand comme ça, qui bouge pas, il dit rien, on rigole, des comiques de situation, des jeux de mots, vraiment je suis bon public de absolument tout, et c'est pour ça que je fais ça.
Est-ce que c'est pas une disposition presque? Est-ce que quelquefois on décide pas, comme je ne sais plus, qui disait que finalement l'optimisme ou le bonheur, ça se décide, c'est un choix. Est-ce que on se dit pas, bah voilà, là j'ai envie de que la vie me fasse rire ou que ce que je vais voir me fasse rire. Est-ce que c'est pas des dispositions ou des prédispositions pour se mettre en état? Non.
Comme... Je pense qu'il peut y en avoir. Non, mais c'est... quand je parlais tout à l'heure justement de la mise en place de la soirée et puis du public qui venait, notamment à Ardéchois rural, qui venait parce qu'il avait envie de passer un bon moment, bah déjà, il est mis en disposition pour rigoler. Là, la différence dans certaines grandes villes où le public a tellement de propositions, enfin, moi, je fais le lien avec les comedy clubs notamment, ils ont tellement de propositions, ils vont tellement en voir qu'en fait, bah, ils y vont presque juste pour juger les artistes plutôt que de se détendre. Là, vraiment, je le remarque dans nos soirées, ils viennent pour passer un bon moment. Donc, en fait... Déjà, avant le spectacle, ils rigolent. Bon, bah, du coup, pendant le spectacle, ils rigolent encore un peu plus.
Mmh. Il faudrait filmer. Oui, t'es très visuel. et très peu radiophonique.
Ah mince.
On le saura pour la prochaine fois. On saura qu'il ne faut plus t'inviter, Gilles.
Ah non, non, pardon. Oui. Ah bah, je suis d'accord. Non, mais alors là, bravo. Je laisse la parole à mon camarade Laurent Dary.
Qui n'a jamais le choix.
C'est vraiment, vraiment un honneur que je... Écoutez, je serai bref. Je voudrais d'abord développer en quelques points quelque chose que nous n'avons pas abordé jusqu'ici et qui est... Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui est que le rire est une affaire sérieuse, bien sûr, et qu'on ne badine pas avec le rire. C'est très important de le dire à nos auditeurs, n'est-ce pas?
Et voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci. Parler du rire, c'est un peu comme disséquer une grenouille, en fait. Hein. Ça n'intéresse pas grand monde. Et en fait, la grenouille, elle meurt à la fin. Donc c'est
vrai.
Et après, il y a plein de types d'humour, comme on vient de le dire. Et on ne rit pas tous de la même chose, quand même. Et ça on le voit, même dans la vie de tous les jours, quelque chose sur lequel on va rire, l'autre d'à côté. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, quoi.
C'est très, très culturel. Ouais.
Très, ça m'arrive souvent, ça, par exemple.
Ouais, c'est très subjectif.
Où je ris seul. Ouais. Et après, bah, pareil, dans l'humour, il y a l'humour noir, il y a l'humour... Enfin, il y a plein de choses. Ça va toucher certaines personnes et d'autres. Non, on a dépassé leurs limites. Et là c'est non, on ne rit pas là-dessus. Ça, c'est un vaste sujet aussi.
Parce qu'on peut rire de tout.
Voilà.
Tout à fait. Non, mais effectivement, l'humour, c'est subjectif. Donc, forcément, il y aura des personnes qui vont rire de certaines choses et d'autres non. Mais ça reste sur certains sujets, ou certains mots, ou certaines phrases. C'est pas sur l'ensemble d'un spectacle, quand même. Mm-hmm.
Mm-hmm. C'est juste.
Merci, Gilles.
Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est...
Non, mais je pense que c'est vrai aussi dans le théâtre.
Bien sûr.
Il y a certaines pièces qui vont parler de certaines choses, certaines sensibilités, dans d'autres différentes. Et peut-être qu'un public qui va voir une pièce rira pas ou n'aura pas autant d'émotions que sur une autre pièce, j'imagine.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça dépend aussi de l'écriture, des acteurs, surtout la mise en scène, etc. La direction qu'on prend. On peut faire avec le même texte deux pièces complètement différentes. Hein. Mmh. Avec une même pièce, on peut faire un drame, on peut faire quelque chose de noir, et avec la même pièce, on peut faire quelque chose de plus décalé, plus drôle. Enfin.
Et puis c'est infini encore, puisque on l'a dit, c'est une rencontre entre soit un texte, une situation. Et puis un spectateur, une spectatrice, et ça, ça joue. Enfin, je veux dire, c'est comme toute rencontre, en fait, ça dépend. On ne goûte pas le même vin qui est pourtant le même à certains moments de la vie ou même de la journée, comme on ne va pas goûter l'humour de la même manière. Ça, c'est.
Ah oui,
c'est
tout
très,
à fait.
Très vaste.
Mmh. Ah oui, c'est très, très vaste. Mais effectivement, ça va dépendre un peu des conditions du spectateur au moment où il voit le spectacle, effectivement. Peut-être que. quelqu'un qui vient de se faire larguer ou qui a perdu son chien ou j'en sais rien, qui a un spectacle ou alors qui vient de passer une très bonne journée, il ira pas de la même façon au spectacle. Il y a un peu une disposition justement.
Surtout, après, surtout si c'est le comédien qui vient de perdre son chien, il ne va pas jouer pareil non plus.
Ben, j'allais rebondir là-dessus aussi. Donc étant principalement dans la comédie aussi, où c'est très technique quand même la comédie aussi. C'est tout, même quelqu'un qui est très drôle dans la vie, il monte sur scène, ça ne veut pas dire qu'il va être drôle en fait. Et du coup, il y a un côté très technique. Et une même soirée, une même phrase, le lendemain, tu ne la dis pas de la même manière. Bah, bizarrement, ça apparaît en fait. Donc, il y a vraiment ce truc aussi de.
De l'énergie du comédien.
De plein de choses. Et puis, ouais, un petit côté. Oui, voilà. Oui, bah, c'est là que je veux dire la technique, tout ça, ouais. Où voilà, tu vas louper ta rupture un soir, hop, tu fais un bide. Oui, alors que le lendemain, salle rit.
Et par exemple, nous, on fait souvent le Festival d'Avignon. Eh ben, on a deux publics. La veille, les gens ont ri pleine voix, etc. Et le lendemain, eh ben, le public est froid, ne réagit pas. Ben, et ça dépend. Soit c'est nous, c'est la fatigue, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit c'est le public qui, des fois, à Avignon surtout, je parle surtout d'Avignon, où le public voit plein de spectacles dans la journée, voit plein de trucs, et on a des publics complètement différents, quoi, à Avignon, sur la même pièce, sur le même spectacle.
Et après, il y a notre ressenti en tant que comédien aussi, parce qu'en fait, ça... ce que vient de dire Gilles, du coup, il y a aussi un soir, on va avoir l'impression que c'était le feu dans la salle et tout. Le lendemain, on a l'impression, ce que tu viens de dire, que c'était tout mou, et puis les gens à la sortie sont super contents.
Oui.
Donc il y a aussi notre ressenti où on va parler à quelqu'un, bah si, ça a vachement ri. Bah non, pas trop ce soir. Et en fait, si, mais c'est juste
ça,
que.
Oui, mais ils sont pas exprimés. Il n'y a pas eu ce rire moteur. Il n'y a pas eu le mec qu'on a payé dans la salle pour rire.
Et on est très exigeant. c'est que quand tu fais de la comédie, si tu n'entends pas 10 000 rires et que le niveau il n'est pas là, que ça rit là, tu as l'impression que ça rit pas, alors qu'en fait, ça rit.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr.
Et ouais, et c'est très, très intéressant, ça, parce que du coup, ça veut dire rire, oui, on s'exprime, et de toute façon, physiquement, ça fait beaucoup de bien. C'est un peu comme. C'est une jouissance, en fait, rire. Il y a tout le corps, et puis on lâche, et ça. Voilà, il y a tout le corps qui est mis en mouvement. Donc, il y a un côté très. Très, très bon de rire. Mais. Il y a peut-être des choses en fait qui nous font rire intérieurement sans ça, je veux dire dans la subtilité, et qui est plus compliqué en salle justement de percevoir, parce que il y a moins le côté contagieux du coup du rire fort, etc., ou comme tu dis Caroline, waouh, le niveau est là, c'est radiophonique aussi ça, enfin,
oui.
En haut. Mais il y a pas de contagion, et on n'a pas l'impression que ça se passe, alors que quelque chose se passe en silence, avec plus de subtilité peut-être.
C'est vrai, non mais c'est vrai, mais on le sent des fois ça aussi, parce que ça dépend quel type de pièce on joue. Et ça, nous, quand on sort sur le plateau, on peut le ressentir, ça. Ce sourire, même si ça éclate par un rire, même si c'est pas... Et ça, on le ressent. Le silence, par exemple, au théâtre, c'est très important. Le silence, quand il se passe quelque chose sur le plateau, une émotion qui est 5 minutes après va amener au rire, mais ça, on le sent, et ça, c'est très important, parce qu'on sent qu'il y a une écoute du public, que le public est là, il est dans la respiration de la pièce, il est dans la tension de la pièce. Et les sourires aussi, ça se sent. Mais c'est vrai que nous, des fois, ce qui est satisfaisant aussi, sur qu'on est comédien, même si c'est après qu'on sort du plateau, quand on sent que ça réagit, on s'est dit là, parce qu'il y a des, il y a des, on sent qu'il y a, dans une pièce qu'il y a des ruptures, des choses comme ça. Le public réagit à ce moment-là, dit tiens, ça y est, on les a aussi. Ça fait toujours plaisir. Mais ça veut pas dire que même s'ils réagissent pas, qu'ils sont pas dedans, quoi. Mais
non, parce que voilà. Par exemple, moi, ça m'est arrivé cette année. Je joue une pièce qui s'appelle Tous nos vœux de bonheur, qui est une comédie et qui fonctionne très bien. Mais j'ai eu cette arrivée des soirs où un espèce de grand calme plat. Pour nous, c'est l'horreur. Enfin, vraiment, tu ressors de scène, t'as l'impression que t'as fait un bide et tout, et sauf que tu parles avec les gens. C'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens à la sortie. Et en fait, ils ont adoré les gens. Et en fait, ils étaient à l'écoute. Ils étaient dans l'histoire, ils sont à l'écoute, ils sont pas dans le rire, en fait. Et par contre, avec des retours super à la sortie. Et t'es là, ah bon ? Ah, bah, je croyais que non, du coup. Ah bah si. Et voilà. Et en fait, c'est rire intérieur.
Et ça, le rire du public vous nourrit pendant votre pièce ? Enfin, le... les retours du public pendant le spectacle vous nourrit ou vous déroulez votre spectacle?
Ah bah quoi qu'il arrive, on y va.
Oui, non, mais quoi qu'il arrive, vous le faites, mais je veux dire, ça influe vraiment sur votre jeu.
Il faut pas. Il faudrait pas. Il faut pas, sinon c'est du cabotinage. Mmh. Sinon, si on va dans le sens du public, on cabotine, on fait... Non. Nous, on a des repères, on joue entre nous, on fait exactement la même chose que la veille, que le lendemain. Avec, non, comme c'est du spectacle vivant, il y a toujours quelque part un fil tendu. Mais non, on continue, on n'attend pas les effets. On raconte une histoire, une situation, voilà. Et qu'importe les réactions du public, en gros. Hein. Ouais. Nous, on n'attend pas le rire obligatoirement, surtout quand on fait du beau marché, même quand on fait des textes de La tête en friche de Marie-Sabine Roger, on fait des textes comme ça, on va pas attendre le rire. On aime bien quand ça réagit, ça c'est sûr, mais sinon on continue le déroulement parce que il y a pas de regard public. Il y a pas de tout d'un coup on regarde vraiment, nous on regarde jamais le public dans les yeux. Ouais. On dit pas alors au début la bonne blague tout ça, on continue la situation, ce qui se passe sur le plateau entre les personnages, quoi.
C'est peut-être plus, je parlais plus d'un ressenti personnel après éventuellement, ouais. Mais non, après le personnage t'essaies de quoi qu'il arrive de te...
faut reconnaître quand même que ça nourrit, enfin je veux dire, ça fait du bien de sentir, bah oui. Mais en fait quoi qu'il arrive, c'est ce que disait Gilles aussi, enfin que ce soit par le rire ou autre chose, mais on a besoin de quand même de sentir que le public est avec nous. Sinon, c'est un peu déstabilisant. Après, bien sûr, on continue, on déroule la pièce. On va pas s'arrêter juste en disant « Bah alors, vous n'êtes pas avec nous ». Mais c'est vrai que ça fait du bien, ça rassure, ça stimule même, ça donne envie de... Enfin, voilà, ça donne la confiance, je pense, quand on est sur scène, quand on sent que les gens sont avec nous, que ce soit en les entendant rire, en entendant leur écoute attentive.
Mais c'est vrai qu'on ne casse pas le quatrième mur. On ne s'adresse pas au public. On ne leur dit pas « Alors, comment est-ce que vous en pensez ?» Tu vois, c'est pas alors que le stand-up, il peut se permettre.
C'est justement, c'est que moi, je fais le lien, c'est complètement différent pour le coup dans le stand-up parce que les artistes discutent avec le public. Et s'il n'y a pas de réaction du public, bah, pour le coup, l'artiste, il va leur dire... Et en plus, il va être moins bon, probablement. Et parfois, ça peut amener des choses où bah, pas très cool, où l'artiste va faire moins de temps et tout. Parce que vraiment, il a besoin de cet échange avec le public-là. Quoi. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je me pose la question si dans les autres pièces ou dans les autres formes d'art, il y avait cette chose-là. Quoi.
Il y a quand même... Je n'aurais pas le terme pour... une super soirée. Il se passe quelque chose, donc sans se le dire, évidemment, entre les spectateurs et les comédiens, justement. Où tu le sens quand t'as chopé ta salle, quand même, tu le sens que là, t'as les spectateurs. Et en fait, bah, ça crée un truc. Et ça, quand même, dans ta façon de jouer et tout, ça va. Et il y a des fois, du coup, ça fait des soirées explosives parce qu'on s'entraîne les uns les autres. En fait, plus il rit, plus nous, enfin, je sais pas, ça développe quelque chose qui fait que tu sens que t'es vraiment en osmose avec des spectateurs. Et puis bah là, c'est des soirées géniales, évidemment.
Bah, sans briser le quatrième mur, en fait, c'est-à-dire sans s'adresser au public. C'est vrai que parfois, si tu joues une pièce où tu cherches vraiment le rire, si tu sens que le public il est friand de tel genre de choses, bah, c'est vrai que tu peux aller un petit peu dans sa direction aussi. Hein.
Jamais.
Et tant pis pour le metteur en scène.
Non.
Non, mais parce que Gilles, t'as prononcé le mot cabotinage. Et moi, pour moi, cabotinage, c'est aussi une forme d'ego trip. C'est-à-dire, je sens qu'ils en veulent, ça me fait du bien, et on y va, et on y va encore, et on y va encore. La frontière, peut-être, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que quelquefois, des stand-uppers, c'est pas facile à dire, ou euses, cabotinent.
Ah, je pense que dans le stand-up, il y a une forme d'ego, hein, de toute façon. Clairement.
Ça ne m'étonne pas.
Non, ouais. Mais contrairement.
Alors que nous, on est humbles. C'est
pour ça qu'on est comédien, d'ailleurs. Hein, c'est parce qu'on est humble. On n'aime pas qu'on nous regarde. Non.
Clairement, dans le stand-up, il y a une forme d'ego qui est importante. Et justement, quand il y a des soirs où ça ne fonctionne pas, c'est. Parfois, sans dire souvent, c'est l'ego de l'humoriste, du stand-upper ou de la stand-upeuse qui parle. Mmh. Quand on a un stand-upper qui dit que le public n'était pas bien ce soir, c'est pas le public qui n'était pas bien en général. Hein, c'est vraiment le public qui a le dernier mot. Donc en fait, il y a beaucoup d'ego hein, dans le stand-up. Mmh. Hein.
En fait, c'est une thérapie collective. Quand ils viennent là, c'est pour...
C'est exactement ça.
C'est... Ouais.
Il y a des, comédiens qui disent ça aussi.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de...
C'est le public.
Il y en a qui disent ça. Ouais. Non, mais il y a pas mal de stand-uppers qui se sont mis au stand-up justement pour, comme un exutoire, justement, pour parler de leurs problèmes personnels. Et ça leur a fait du bien. Et c'est aussi pour ça que ça marche, parce que c'est vrai, ça sort des tripes. Et il y a moins d'ego que quelqu'un, un stand-upper, qui s'est lancé pour être connu et qui veut essayer de faire rire... Par ses écritures, et qu'il n'y a pas forcément d'histoire personnelle qui prend en trip. Ça peut y avoir ce jeu-là. Mais il y a beaucoup d'ego dans le stand-up, oui. Qu'il y aura moins dans le théâtre ou dans d'autres formes d'art.
Oui. L'ego et les couleurs. Hein. Voilà. Il nous a fait un jeu de mots. Bravo, oui. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo.
Bah, c'est bien, c'est pour la fin de l'émission. Peut-être un petit deuxième, non? Tant que t'es chaud.
Nourrissez-moi. Parlez, je trouverais peut-être quelque chose.
Mais c'est ça, au bout d'une heure, ça y est, on commence à être un petit peu chaud.
Besoin de me chauffer, oui.
Mais ouais.
On va faire une deuxième heure.
Voilà. Allez, c'est parti.
Ça y est, ça commence là, maintenant. On y va.
On est chaud.
Donc, ce qui vous fait rire, je saurais toujours pas. Si, comédie de situation, tu m'as dit.
Ah oui, je l'ai dit.
Oui, pardon.
Mais avec. Non, comédie, c'est déjà bien.
Bon, finalement, on parlait de. Bah, Caroline, toi, tu parlais de la technique, en fait, des comédiens, qui est importante. Mais c'est vrai que là, tout peut faire rire, en réalité. Moi, j'ai l'impression. Ça dépend comment c'est fait. Mais je veux dire. Il y a certaines personnes ont des tabous, on va s'arrêter à certains sujets, ça, mais même, je crois qu'ils pourraient sûrement rire de beaucoup de choses qu'ils n'imaginent pas si la personne en face d'eux le fait avec quelque chose qui parle à leur subjectivité, à un certain tact ou je ne sais pas, quelque chose.
Mais Laurent, on ne parle pas de qu'est-ce qui fait rire, mais qu'est-ce qui te fait rire.
Ah, moi.
Il essaie de noyer le poisson.
Oui. Il se trouve que j'ai... Je suis comédien, mais aussi musicien, et il y a des musiques qui peuvent me faire rire aussi. Ça, c'est amusant, mais bon.
Quel genre de musique,
oui, par exemple?
Alors, il y a toutes sortes de musiques. Il y a dans les musiques anciennes, dans la musique classique, il y avait des compositeurs qui étaient capables de faire rire. Alors, je ne sais pas si c'est rire aux larmes, mais ça fait sourire, quoi. Mais c'est quand on joue sur les codes, en fait. Souvent, le rire aussi, c'est un jeu sur les codes quand le public attend quelque chose et il a autre chose, mais quelque chose qui fait un clin d'œil avec ce à quoi on s'attend quand même. Il y a des groupes aussi aujourd'hui qui arrivent à faire rire en musique. Ça, je trouve ça fascinant parce que c'est pas évident de faire rire en musique sans paroles. Hein, je veux dire, c'est pas les paroles, c'est vraiment la musique. Il y a un groupe américain qui s'appelle Ween, comme la fin de Halloween. Si vous avez l'occasion d'écouter, il y a des chansons très drôles et c'est vraiment drôle par des décalages. Ça, c'est comme de la pop rock auquel on est habitué, mais il y a toujours des décalages qui font qu'à un moment on se dit mais c'est pas possible ce que j'entends. Enfin, et ça peut être très drôle. Voilà. Il y a le Muppet Show aussi qui était très fort pour associer musique et rire, entre autres.
Merci. Ben, on écoutera Win et puis on invite tous les arts des choix, les spectateurs, les spectatrices à venir voir des choses très très différentes. Donc on l'a bien vu, le rire n'est pas forcément le but ultime dans certaines pièces, mais par contre c'est un moyen d'arriver de parvenir à vos fins.
De toucher le public, oui, mais nos fins. Ah oui, fins, pardon. C'était le mot.
C'était la compagnie des affamés.
C'est, exactement.
Oh là là, un jeu de mots qui n'est pas drôle, par exemple.
Ah, mais non. Non, mais dis plus fort, tu aurais pu réagir tout de suite.
Hein. J'ai réagi intérieurement.
La compagnie des affamés. Donc, vous exhumez des pièces aussi venues de temps immémoriaux et qui...
Oui, bien sûr, mais parce que c'est encore une fois, c'est intemporel. Hein, la technologie a évolué, hein, et évolue de plus en plus, et malheureusement, elle nous dépasse. Mais l'être humain, en fin de compte, n'a pas beaucoup bougé, hein, depuis quelques siècles.
Humain comme humour, c'est la même racine.
Exactement.
Comme humilité. Donc, la compagnie des affamés avec Gilles Droulez et Laurent Andary. Oui. Stand-up 07.
Oui, tout à fait.
Avec Antoine Cognon. Enfin, avec, non. En coulisses, Antoine Cognon.
Exactement, oui, en coulisses. Jamais sur scène.
Du stand-up, peut-être une fois ou deux fois par mois, à peu près.
Ouais, même un peu plus, même. Toutes les dates sont sur nos réseaux sociaux.
C'est dans quelle commune ?
Alors, on n'a pas de lieu fixe, en fait, on est itinérant et on joue un peu partout où on veut bien nous accueillir. Et surtout, non, l'objectif, nous, c'est de. On a un triple objectif, c'est de dynamiser notamment notre territoire l'hiver, d'amener la culture au plus près des gens, justement, en étant itinérant. Et le troisième objectif, c'est de faire rayonner l'Ardèche. Faire rire déjà. Ça devrait être le premier, en fait. Non, c'est de faire rayonner l'Ardèche par là où on joue. On joue pas forcément dans les salles des fêtes. On joue chez des producteurs.
On n'est pas la préfecture. Hein. Tu joues chez toi la semaine prochaine.
T'es
pas au courant.
Tu peux ne pas dérouler tes objectifs non, d'association.
C'était surtout le dernier qui m'intéressait parce qu'on joue dans des lieux qui mettent en avant le territoire, chez des producteurs, dans des lieux authentiques, insolites. Et donc, s'il y a des gens qui ont des lieux comme ça, qui peuvent mettre en avant aussi le territoire pour faire découvrir le territoire aux habitants, redécouvrir par le spectacle. Nous, on est preneurs. Là où on peut jouer, on vient jouer.
Mais Gilles vous accueille la semaine prochaine chez lui.
T'es
pas au courant ?
Ah non, j'étais pas au courant.
Grand salon.
Oui, bah écoute.
Il faut juste un micro en plus.
Ah, il faut un micro ? C'est très facile. Bon, on ira chez toi.
Non, chez toi.
Bon, ok, d'accord.
Et chez toi, Caroline, c'est la Blassène à la Blachère.
Oui, c'est lieu. Ça.
Vous trouverez aussi toutes les infos sur le site internet. Merci beaucoup. À vous tous.
Merci.
Vous êtes prêtés plus ou moins au jeu.
Ça veut dire quoi,
Je ne dis rien. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Le salon impromptu, c'est fini et vous pouvez retrouver le salon impromptu sur notre site internet fréquence7.net. Sinon, c'est le deuxième et le quatrième dimanche du mois à midi. Bisous.
Ciao.
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 Bisous.
I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
This operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman. Craftsman. Craftsman.
Le salon impromptu.